Voici une question qui va sans doute susciter l'intérêt de plusieurs. Pourquoi est-ce que la Bible est rejetée par la plupart des gens? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a presque terminé les émissions dont l'enseignement vient de l'Évangile de Jean. Je trouve que ça a été très vite, ça a passé vraiment vite. On ne voit pas le temps passer quand le Seigneur nous prend à part pour nous enseigner. Voici les questions qu'on va poser à la parole de Dieu dans l'avant-dernier chapitre de ce bel évangile. Pourquoi les marques des clous étaient-elles encore visibles sur Jésus après sa résurrection? Que produit en nous une communion intime avec Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit habite réellement dans tous les croyants? De quelle manière est-ce qu'on obtient le pardon de nos péchés? Comment est-ce que le croyant peut voir à ce que les autres reçoivent le pardon de leurs péchés? Pourquoi est-il important que les croyants s'assemblent régulièrement? Pourquoi y a-t-il tant de gens qui rejettent la Bible? Comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu? J'ai bien hâte d'entendre ce que la parole de Dieu va nous répondre par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu qu'il nous dispose nos cœurs à bien comprendre ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, c'est toi qui disposes de toutes choses, et on te demande de disposer nos cœurs pour qu'on soit réceptif à tout ce que tu vas nous dire, qu'on ne laisse pas passer quoi que ce soit que tu vas nous enseigner aujourd'hui et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Mes amis, aujourd'hui, nous reprenons notre étude de l'Évangile selon Jean au verset 19 du chapitre 20. Nous arrivons à la fin de l'Évangile de Jean. Ce chapitre traite de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu que Marie de Magdala fut la première à venir au tombeau. Lorsque Marie arriva au tombeau, elle le trouva vide. Elle l'a rapporté à Pierre et à Jean, qui sont venus voir et qui ont inspecté le sépulcre. Jean a cru en voyant le cocon formé par les linges et les aromates et n'a pu que conclure que Jésus avait bel et bien ressuscité. Le corps avait quitté les linges sans déformer le cocon. Ensuite, le Seigneur Jésus est apparu à Marie dans le jardin. Marie n'a pas reconnu Jésus en le voyant, non parce qu'il ne se ressemblait plus dans son corps glorifié, mais parce qu'elle ne croyait pas à la résurrection. Cependant, lorsque Jésus l'appela par son nom, elle reconnut sa voix. Je pense que ceux d'entre nous qui seront décédés au moment du retour de Jésus-Christ, nous l'entendrons nous appeler par notre nom, si du moins nous sommes des siens. Les brebis, ses brebis, entendent sa voix et elles le suivent. C'est ainsi que Jésus a fait avec toutes les personnes qu'il a ressuscitées il y a plus de 2000 ans. Nous arrivons maintenant à l'apparition suivante. Jésus est apparu aux disciples qui se sont rassemblés et enfermés dans une chambre parce qu'ils ont peur. Chers amis, débutons notre lecture. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Avez-vous remarqué que lorsque le surnaturel entre en contact avec le naturel, le message est toujours « La paix soit avec vous » ou « Ne craignez point ». Lorsque le Seigneur se présente aux apôtres, qui sont des humains, il amène sa paix. Ce ne sont pas des paroles vides de sens, comme nous en employons souvent dans nos salutations. Le Fils de Dieu ne parle pas pour rien dire. il apporte vraiment sa paix. C'est cette paix qui est le résultat d'être justifié par la foi en Jésus-Christ. Le Seigneur nous apporte sa paix. Lorsqu'une personne se repent et se tourne vers Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu cesse d'être en colère contre elle et il ne la traite plus en ennemi. Nous observons que les apôtres ont reconnu le Seigneur Jésus malgré leur frayeur. Il est apparu avec son corps glorifié et il a pénétré dans la chambre qui était fermée à clé. Nous voyons que le corps glorifié n'est pas sujet aux lois de l'univers matériel. C'est pourquoi je pense que lorsque le Seigneur Jésus reviendra et que nos corps seront changés, nous n'éprouverons pas de difficulté à nous élever dans les airs pour aller vers lui. Verset 20. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les marques sur le corps du Seigneur Jésus sont-elles aussi les vôtres? Notez que les marques des clous sur ses mains et du trou dans son côté sont visibles sur son corps glorifié. Les marques de la crucifixion sont toujours sur le corps du Seigneur Jésus. Le corps glorifié est semblable au corps humain sur ce point. Je ne pense pas qu'il y aura des marques de blessures sur notre corps glorifié. Je pense que ces marques de blessures sont sur le corps de Jésus parce que ce sont les meurtrissures qu'il a portées pour nous. Il fut meurtri afin que nous puissions être présentés à Dieu sans défaut et sans tache. Ces marques seront la preuve éternelle qu'il a porté nos péchés sur lui. Ces marques ne sont pas seulement la preuve visible de sa résurrection corporelle, mais aussi la preuve de la puissance de cette résurrection pour apporter la paix aux croyants. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir calmé ses disciples en leur prouvant qu'il était ressuscité, il poursuit avec un enseignement spirituel que les disciples sont maintenant capables de recevoir. Je ne pense pas que le Seigneur se répète en disant « La paix soit avec vous ». Il parle d'une autre paix. Au verset 19, il parlait de la paix de la rédemption, de la paix avec Dieu. Maintenant, la rédemption est accomplie. C'est la paix décrite dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, où nous lisons « Venez à moi ». Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ceci est le repos de la rédemption, la paix de la rédemption. La communion intime avec Dieu produit une paix intérieure. Il y a une autre paix. C'est la paix qui prouve ceux qui sont en communion intime avec Dieu et qui lui obéissent. C'est la paix décrite cette fois dans le verset 29 de Matthieu, chapitre 11. Le voici. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le discours sur la paix démontre que Jésus désirait que ses disciples possèdent la paix. Pas seulement une paix fondamentale, mais une paix continuelle dont ils doivent être conscients. La rédemption est maintenant accomplie. Le Seigneur envoie ses disciples dans le monde comme le Père l'a envoyé dans le monde. Il avait prié à ce sujet. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jean, chapitre 17, verset 18. Revenons à notre texte de Jean, chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Nous sommes dans une période de transition entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Il y eut un intervalle historique unique dans la vie des disciples entre la mort et la résurrection de Jésus et le jour de la Pentecôte. Un tel intervalle ne se reproduira pas. Elle est unique. Les disciples avaient demandé à Jésus de leur enseigner à prier et il l'avait fait. Cela est raconté dans Luc, chapitre 11. Il avait dit que l'on donne à ceux qui demandent. Au verset 13 de ce chapitre, il dit que Dieu accorderait l'Esprit à ceux qui le lui demanderaient. En autant qu'on puisse le dire, ils ne l'ont jamais fait. Dans Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus dit, « Et moi, Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Simon-Pierre avait démontré du discernement alors qu'il a reconnu que le Seigneur Jésus était le Christ. Loin, annoncé par les prophètes, le choisi de Dieu. Mais quelques instants plus tard, il disait à Jésus de ne pas parler de sa mort à la croix. Personnellement, je pense que les apôtres furent régénérés au moment où il souffla sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Avant ça, ils n'avaient pas été régénérés par l'Esprit de Dieu. L'expression « il souffla sur eux » se retrouve à un seul autre endroit dans la Bible, soit au récit de la création d'Adam dans la Genèse. L'Éternel souffla un souffle de vie dans les narines de l'homme fabriqué de la poussière de la terre. Je pense que le Seigneur Jésus a soufflé le souffle de la vie éternelle dans les apôtres en leur donnant le Saint-Esprit. Ceci les soutiendrait et les garderait jusqu'au jour de la Pentecôte, le jour où serait répandu abondamment le Saint-Esprit. Donc, les disciples reçoivent un acompte en attendant le jour de la Pentecôte où l'Esprit sera donné avec puissance. Là, il viendra habiter en eux. Le Saint-Esprit habite les croyants. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et ils furent tous baptisés ou immergés dans le corps de Christ. De plus, ils ont reçu la puissance divine. L'Église naquit ce jour-là. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est dans le monde. Il habite les croyants et il les baptise dans le corps de Christ. Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Nous sommes devant un verset important qui est généralement très mal compris. Le pouvoir de pardonner les péchés appartient à Dieu seul, et le Seigneur Jésus ne le donne pas aux apôtres. En fait, il commande aux apôtres de proclamer le pardon des péchés, en annonçant la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité pour les péchés du monde. La mort de Jésus nous obtient des bénédictions que nous réclamons par la foi. Dans le livre des Actes, ainsi que dans les Épîtres, nous ne trouvons pas d'instance où les apôtres ont pardonné les péchés d'une personne. Cependant, ils ont proclamé le pardon des péchés. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui nous obtient le pardon de nos péchés? Même Dieu ne peut pas pardonner les péchés de façon arbitraire. Le pardon des péchés s'obtient seulement par le sang de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le pardon des péchés était fondé sur le fait que le Seigneur Jésus viendrait mourir pour les péchés. Dieu sauvait les gens à crédit, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne prendre sur lui la peine de leurs péchés et de payer entièrement la dette. Aujourd'hui, Dieu pardonne nos péchés lorsque nous croyons que le Seigneur Jésus est mort pour nous racheter. Dieu a remplacé la carte de crédit spirituelle par une carte bancaire de guichet spirituel. Nous n'avons qu'à réclamer les bénédictions disponibles parce que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Comment est-ce que vous et moi pouvons remettre les péchés? Simplement en proclamant l'Évangile. Ce sont les plus grandes œuvres que Jésus a dit que nous ferions. Lorsque quelqu'un croyait en Jésus alors qu'il était sur terre, c'était merveilleux. Mais ce qui est étonnant, c'est le fait que lorsque vous et moi présentons l'Évangile, quelqu'un naît de nouveau et devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Cela se produit lorsque nous proclamons la bonne nouvelle du salut par grâce. C'est le plus grand privilège que nous pouvons obtenir aujourd'hui. Donc, lorsque vous entendez ce message, chers amis, et que vous le recevez, et que vous y placez votre foi, vos péchés sont pardonnés, parce que vous croyez en le seul sacrifice, en celui de Jésus. Nous avons une grande responsabilité. Si nous n'annonçons pas l'Évangile, alors les péchés ne seront pas pardonnés. je pense que nous récoltons le fruit de notre négligence à proclamer l'Évangile au cours des dernières années. Parce que nous négligeons notre responsabilité. Des gens meurent au combat, d'autres sont victimes de crimes. Si tous les soldats qui sont morts à la guerre avaient consacré leur vie à proclamer l'Évangile, ou étaient devenus missionnaires, le monde serait très différent. Nous avons la seule chose qui peut apporter le pardon au monde, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Mes amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, l'annoncez-vous? Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Nous ne pouvons que spéculer au sujet de la raison pour laquelle Thomas n'était pas présent. Il était peut-être du genre solitaire ou même sceptique. Il regardait le côté sombre des choses. Je pense que les 10 autres disciples parlaient avec excitation de la résurrection de Jésus, mais que Thomas ne pouvait simplement pas y croire. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Oh là 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 là! Quel incrédule! Il est devant suffisamment de preuves pour croire, mais il refuse de le faire. L'incrédulité de Thomas est grande, chers amis. Le texte grec suggère que Thomas affirme qu'il croira à la condition de voir et même toucher les meurtrissures sur le corps du Seigneur Jésus. Cependant, il semble qu'il va demeurer avec le groupe de disciples. Mes amis, si vous désirez grandir spirituellement, vous devrez vous tenir avec des croyants afin de grandir avec eux. Je pense que vous devez partager ce que vous apprenez de la parole de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous devons nous rassembler afin de grandir ensemble. Versets 26 à 28. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit. Le récit ne nous dit pas que Thomas a mis son doigt dans les trous des mains de Jésus ou sa main dans son côté. Ce ne fut pas nécessaire. Aujourd'hui, bien des personnes affirment que si elles pouvaient voir et toucher Jésus, elles croiraient. En fait, le problème n'est pas le manque de preuves de la mort et de la résurrection. Le problème est avec le cœur de l'homme qui rejette Dieu. Lorsqu'une personne doute honnêtement, Dieu va lui répondre. Mais je ne pense pas qu'il se préoccupe des doutes malhonnêtes. De nombreuses personnes affirment qu'elles ne peuvent pas croire la Bible. Elles disent que c'est un problème intellectuel, mes amis. La plupart des gens rejettent la Bible pour des raisons morales. Elles se sentent accusées. Un jour, un homme a affirmé qu'il ne pouvait pas croire l'Ancien Testament. Plus tard, quelqu'un découvrit qu'il vivait en état d'adultère. Et l'Ancien Testament dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Exode chapitre 20, verset 14. En fait, cet homme ne voulait pas croire l'Ancien Testament. Cependant, Dieu va répondre à toute personne qui se pose sincèrement des questions. Remarquez que le Seigneur a accepté l'adoration de Thomas, qui l'a appelé « mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus-Christ a vraiment affirmé et démontré sa divinité. Verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Dieu accorde une bénédiction spéciale à ceux qui ont cru en voyant les preuves de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Que fais-tu de toutes ces preuves? Versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous devenez enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ seul. Voici la clé de cet évangile. Le Seigneur a fait de nombreuses choses qui ne sont pas rapportées dans les Écritures. Il a guéri des multitudes de personnes. Je pense que Jean affirme aussi qu'après sa résurrection, Jésus a fait de nombreuses choses qui ne sont pas rapportées. Jean a fait un choix parmi les événements et l'enseignement qu'il a utilisé pour rédiger son œuvre. Il a choisi le matériel qui lui permettait d'atteindre son but. Jean n'essayait pas de rédiger une biographie au sujet de la vie du Seigneur Jésus. Il n'a même pas essayé de compléter la vie du Seigneur Jésus en donnant des renseignements qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Le but de son écrit, le voici. « Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » C'est en croyant que vous recevez la nouvelle vie et que vous naissez de nouveau. Vous devenez enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ seul. Jésus envoie aussi ses disciples en mission, tout comme le Père l'a envoyé. Nous avons le devoir de proclamer l'Évangile et de faire des disciples, c'est-à-dire d'enseigner les croyants avec la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a révélé le Père et il a payé pour nos péchés afin que nous puissions revenir à notre Dieu, le Dieu créateur de l'univers, le Dieu qui règne sur sa création. Maintenant, le Seigneur Jésus ressuscité est auprès du Père intercédant pour nous. Nous avons sa paix. Lui appartenant et étant né de nouveau, il nous garde pour le jour du jugement. Il nous présentera à Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Le Seigneur Jésus nous invite à nous détourner du péché et de revenir à notre Père céleste en passant uniquement par lui. Une fois que nous l'avons fait, il nous demande de contribuer à l'avancement de son royaume et à la proclamation de l'Évangile, ce que nous faisons parce que nous l'aimons. Les marques que portera le corps de Jésus pour l'éternité sont celles des meurtrissures qu'il a subies pour nous. Elles rappelleront aux enfants de Dieu que s'ils sont en présence du Père céleste pour l'éternité, c'est parce que le Fils de Dieu a payé de sa vie pour leurs péchés. Elles rappelleront aux élus qu'ils sont au ciel parce que le Seigneur Jésus est leur médiateur et leur souverain sacrificateur. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté leurs péchés. Nous ne pourrons que glorifier Dieu pour tant d'amour. Chers amis, nous avons maintenant terminé l'Évangile. Quelqu'un a peut-être envie d'appeler et de dire « Un instant, Régent, il y a un autre chapitre. » Oui, il reste un dernier chapitre, le chapitre 21 que nous verrons à la prochaine émission. Cependant, ce chapitre est un épilogue. Jean a écrit un prologue et un épilogue pour son évangile. Donc, à la prochaine émission, nous examinons l'épilogue qu'a rédigé l'apôtre Jean. Il continue de nous donner des preuves de la résurrection du Seigneur Jésus. Un incident traite d'une excursion de pêche sur la mer Galilée. L'autre incident concerne les disciples, surtout Simon-Pierre, dans une relation intime. Dans un questionnement intime entre lui et le Seigneur Jésus, nous parlerons du secret pour servir Dieu. L'amour. Seul l'amour envers Jésus peut nous qualifier dans le service chrétien. Oui, chers amis, ce seront les sujets que nous regarderons à la prochaine émission. Préparons-nous donc en lisant Jean chapitre 21.
Merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui pourquoi il y a tant de gens qui rejettent la Bible. Je me souviens de l'avoir rejetée moi-même dans le passé. Pendant longtemps, j'ai pensé que les gens qui rejetaient la Bible, c'était à cause de l'enseignement qu'on avait reçu de la part de certains leaders religieux qui autrefois avaient mis la Bible à l'index disant que c'était dangereux de la lire et qu'on pouvait même devenir fou en essayant de la comprendre, puisqu'il y avait seulement les théologiens qui pouvaient la comprendre et qui pouvaient l'interpréter. Et je crois encore que c'est vrai en partie. Mais aujourd'hui, on en a appris encore plus concernant le fait que la plupart des gens rejettent la Bible. On a vu que le problème est avec le cœur de l'homme qui rejette Dieu. Réjean nous a donné l'exemple de l'homme qui affirmait ne pas croire à l'Ancien Testament. C'est intéressant de voir que plus tard, quelqu'un a découvert que cet homme était adultère et qu'il se sentait accusé par l'un des commandements que Dieu avait donné à Moïse pour son peuple dans l'Ancien Testament. Et ce commandement, c'est « Tu ne commettras point d'adultère ». On a vu que cet homme ne voulait pas croire à l'Ancien Testament. C'est pas qu'il ne pouvait pas, il ne voulait pas. Personne n'aime se faire dire qu'il est un pécheur. Je peux le constater chaque fois que je présente l'Évangile aux gens. Quand je leur dis que Jésus est amour, ils sont généralement d'accord avec moi. Quand je leur dis que Jésus est mort sur la croix pour nous, ils sont encore d'accord avec moi. Mais quand je leur dis que nous devons tous avouer que nous sommes des pécheurs perdus, plusieurs se mettent à me décrire les bonnes choses qu'ils font, le bien qu'ils font aux autres, qu'ils ne font rien de mal, malhonnête, rien de mal délibérément, qu'ils sont fondamentalement de bonnes personnes, qu'il y a quelque chose de bon dans chaque individu. Mais c'est donc difficile d'avouer qu'on est un pécheur perdu. Et pourtant, la parole de Dieu nous l'enseigne, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je dois avouer que j'ai fait la même chose, jusqu'au jour où, par les paroles que Dieu a mises dans la bouche d'une personne, l'Esprit de Dieu m'a convaincu que j'étais une pécheresse perdue et que je ne méritais nullement d'aller au ciel pour l'éternité, mais que plutôt, je méritais l'enfer. Mais en même temps, j'ai appris que Dieu ne voulait pas me condamner. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus, le seul qui est venu sur la terre sans jamais pécher, afin qu'il soit le sacrifice expiatoire que Dieu agréerait pour le pardon de mes péchés. Quand j'ai bien compris ça, j'ai mis mon orgueil de côté. Je me suis repenti. J'ai pris la décision de changer de direction. J'ai demandé à Dieu de m'aider à le faire, sachant que je ne pouvais pas le faire par mes propres moyens. Et j'ai dit, « Seigneur, sauve-moi !» Et il l'a fait. Mon ami, tu n'as rien à accomplir pour avoir la vie éternelle. Tu as juste à faire comme moi. Reçois Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, comme Maître de ta vie. Demande-lui de te sauver maintenant, et c'est certain qu'il va le faire.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.